pour vous informer. Nous vous remercions pour la confiance. C'est l'heure de suivre la grande édition de la mi-journée. Le journal présenté par Reine Fabienne Doutiga. Reine, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane Niaboudé, bonjour à tous. À la une, cette tension depuis hier entre des éléments des forces armées centrafricaines et un groupe d'antibalaka Grimari. Un mort et des dégâts matériels, on y revient au début de ce journal. Où en est-on aujourd'hui avec l'opération lancée par l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme en faveur des forces armées centrafricaines? Les précisions dans quelques instants. Et puis le bilan d'accidents d'hier d'un bus de transport en commun revu à la hausse, 5 morts et plus d'une vingtaine de blessés selon des sources hospitalières. En sport, le calendrier des compétitions interclubs de la CAF actualisé en raison de la pandémie de Covid-19. Les demi-finales de la Coupe de la Confédération vont se jouer le 22 septembre prochain.
Rennes, ouvrant ce journal avec cette piscose à Grimari dans la Waka.
Oui, la ville est secouée par des crépitements d'armes hier soir et ce matin. Des échanges de tirs entre des éléments de Faka et un groupe d'antibalaka. On compte un mort et des dégâts matériels. Une mésentente au cours d'une réunion organisée par l'épouse de l'ancien premier ministre Mahamat Kamoun serait à l'origine de cette tension. Écoutons Victor Bissé-Coin, préfet de la Waka. Je te téléphone par Claire Ndombe Assamba.
Il y a des jeunes qui sont au niveau de la Bamba, que je pourrais moi qualifier de bandits, de criminels. Donc hier, les Faka étaient de patrouille dans la zone. Et on me dit que ces jeunes leur auraient tiré dessus. Il y a eu riposte et il y a eu un cas de décès dans le cas des, je pourrais dire, des assaillants, ces bandits. Le second de l'aéroport est tombé. Ce matin, il y a eu encore, effectivement, je n'ai pas encore de détails dessus pour pouvoir vous dire. Sinon, je crois que la situation est sous contrôle des Faka en ce moment. Oui, mais l'information que madame c'est qu'elle est venue, c'est tout à fait normal. Et j'étais en salle pour démarrer la réunion quand le décédé là est venu leur arracher le micro, leur donnant 5 minutes pour quitter les lieux. C'est ce qui s'est passé et effectivement ils ont obtempéré, ils ont quitté les lieux. Pas des décès. C'est qu'il y a une perte en vie humaine, c'est tout. Une seule boutique appartenant au nommé Bonané, que eux-mêmes, les anti-balaka ont saccagé, ont tout vidé. Dire qu'il y a eu crépitement dans la ville, c'est trop dire. C'est dans le secteur la Bamba qu'il y a eu ces crépitements.
L'Observatoire au centre africain des droits de l'homme, OCDH, a lancé il y a un mois une opération de collecte de fonds et de matériel en faveur des forces armées centrafricaines. Où en est-on aujourd'hui, Rennes?
Selon Maître Mathias Mroba, président de l'OCDH, l'organisation va procéder à l'inventaire des biens collectés dans les prochaines semaines afin de les remettre officiellement au FACA, au micro de Rolf Estef Domialeu. Il annonce également que le combat de l'OCDH en faveur de la levée de l'embargo se poursuit sur le terrain, même si la dernière décision du Conseil de sécurité a reconduit cette sanction.
Les connectes se poursuivent à l'intérieur du pays. Les gens se sont manifestés. Donc nous sommes en train de chercher à faire la synthèse de tout ce que les gens ont pu rassembler. Il y en a qui ont apporté des contributions financières. D'autres nous ont proposé des contributions matérielles ou alimentaires, mais nous n'avons pas encore fait. Nous avons été désagréablement surpris par la décision prise récemment par le Conseil de sécurité quant à la question de l'embargo. Ils ont répondu encore à nouveau cet embargo sur la République centrafricaine. Contrairement à ce que le Conseil de sécurité a pris comme décision, le peuple centrafricain n'adhère pas à cette prise de décision de la part du Conseil de sécurité. Alors nous attendons le retour de certaines pétitions qui sont à l'intérieur du pays, notamment Bamassou, Boire et autres. Dès que nous aurons rassemblé le tout, nous avons envisagé rencontrer les pays membres du Conseil de sécurité en République centrafricaine et que nous allons leur dire ce que nous pensons de ce que eux ils ont pris comme décision et qu'ils comprennent que le peuple centrafricain ne le suit pas dans cette décision-là.
Le journal se poursuit sur Radio Ndikiluka Rennes. Parlons de l'unité pour la paix en Centrafrique, l'UPC, qui se désengage du procès verbal de la rencontre de son chef avec le gouvernement.
Dans un communiqué publié samedi, Ali Darassa, leader de l'UPC, a fait savoir qu'il a signé le procès verbal établi par le gouvernement sous pression du Premier ministre Jean-Eudes Bagali.
Selon le communiqué de l'UPC, le gouvernement avait préparé un document qu'il a soumis à Ali Daras dès son arrivée à Bangui. Il lui a été demandé d'amender et de signer le document, mais Ali Daras a souhaité l'examiner avec son staff avant de l'approuver. À la deuxième rencontre, le chef de l'UPC a désapprouvé le procès-verbal et a demandé une discussion franche et honnête. Toujours selon le communiqué de l'UPC, au terme des discussions avec les garants et facilitateurs, un procès-verbal équilibré a été soumis au gouvernement qui a lui aussi désapprouvé le document. Le gouvernement va alors établir un autre procès-verbal, mais Ali Daras refuse de le signer parce que ses revendications n'y figurent pas. C'est ainsi que le Premier ministre Firmin Gribada a proféré des menaces à l'encontre de Ali Daras en présence des garants et facilitateurs en lui disant que tant qu'il ne signe pas le procès-verbal, il ne partirait pas de Bangui. C'est sous cette pression que Ali Daras a signé le document, mentionne le communiqué. Réaffirmant sa volonté de suivre le chemin tracé par l'accord d'ici février, Ali Daras dénonce, je cite, ce genre de dialogue à sens unique qui risque de compromettre de nouvelles rencontres entre les groupes politico-militaires et le gouvernement. Ali Daras, leader de l'UPC, a été reçu le 25 juillet à huis clos par le gouvernement et les garants et facilitateurs de l'accord d'ici février 2019. Selon le procès verbal de cette rencontre, le chef de l'UPC s'engageait entre autres à ne pas s'opposer au déploiement de l'autorité de l'État, à retirer ses troupes de Bambouti, à soutenir le processus électoral en facilitant la libre circulation de tous les acteurs de ce processus. L'UPC avait aussi accepté de créer des conditions de désarmement et s'abstenir de tout acte qui relève de la compétence régalienne de l'État.
Dans ce procès verbal de huis clos, Rennes, le gouvernement de son côté s'est engagé à installer Ali Daras à Bombay.
Ce qui a suscité la réaction du groupe de travail de la société civile, GTSC, demande la démission du Premier ministre et appelle à la ville morte le mercredi prochain. Mais pour le mouvement Centrafrique Debout, une organisation de la société civile proche du pouvoir, les raisons évoquées par le GTSC, notamment la réception du chef de l'UPC Ali Daras par le gouvernement comme faute grave, n'est pas fondée. Javon Zama Papa, coordonnateur du mouvement Centrafrique Debout, au micro de Jean-Eudes Bagali.
Nous connaissons les manœuvres de l'opposition. Cette manœuvre dilatoire se fonde sur la mauvaise volonté de nos confrères et compères de la société civile et de l'opposition qui savent pertinemment que Ali Daras fait partie des signataires de l'accord de Khartoum. S'il ne faisait pas partie des signataires, alors leur argument pouvait être supposé avoir une raison ou avoir un fondement. Dans le processus de l'accord de Khartoum, il est institué un cadre de concertation permanent entre le gouvernement et les signataires. C'est dans ce contexte que Ali Daras a été reçu par le gouvernement. Et ce n'est que chose normale. Le Premier ministre Gribada n'a commis aucune erreur. La grève que préconise organiser le GSTC le mardi et mercredi. Nous disons au peuple centrafricain, le GSTC est une association du syndicat. Nous savons la collaboration qui existe entre le leader de ce syndicat avec l'opposition. Nous sommes au courant de la rencontre qui a eu lieu avant-hier, de minuit à 4h du matin, dans le 2e arrondissement, dans une buvette. À cette réunion, le responsable du GSTC avait pris parti. C'est pour cela que nous disons au peuple centrafricain de ne pas respecter cette prétendue grève.
Autre réaction à cet appel à la ville morte du UGTSC, celle du parti Cohésion Centrafricaine pour la reconstruction CCR.
Pour Sébastien Wenezui, son président, les Centrafricains ne doivent pas céder à la manipulation. Il est avec Inès Laurent Goupo.
Leur déclaration est très précoce pour une simple raison, parce qu'elle ne sait pas exactement les faits réels qui se sont déroulés par rapport à la venue d'Ali Daras à Bangui. La réalité est qu'elle devait se rapprocher de la primature pour savoir ce qui s'est passé au lieu de se contenter d'aller vouloir faire venir les enfants des autres dans la rue ou bien de projeter ce qu'on appelle une ville morte. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ali Daras est en train d'entretenir des relations avec Moussa Hosseini. C'est un terrible criminel au ton de Séléka. Donc, on lui a posé la question, pourquoi il entretient cette relation? En plus, il a demandé de revenir à Bambari, mais avec ses armes. Et il a des contacts avec d'autres peuples qui viennent de Congo démocratique, qu'on ignore leur agenda. Donc, pour cette raison, le Premier ministre a invité Ali Daras et les autres pour qu'ils s'expliquent par rapport à ces multiples rencontres avec d'autres personnes qui sont supposées dangereuses. La société civile doit demander le Premier ministre pour savoir la véracité des problèmes avant de se lancer à l'appel à la manifestation. Donc, je dis à M. Lakosso de retourner retirer le projet de mettre les enfants des autres dans la rue.
Le bilan d'accidents d'hier à 12 km de Bossembélé, axe Yalo-Kéboar, est revu à la hausse.
De sources médicales indiquent 5 morts et 29 blessés au lieu de 8 hier. Certaines victimes sont transférées à l'hôpital de Bossembélé et d'autres évacuées à l'hôpital communautaire de Bangui. L'accident a eu lieu hier à 12 km de Bossembélé sur l'axe Yalo-Kéboar. Le bus de transport en commun qui quittait Bangui pour Garamboulaï a fait tonneau.
Covid-19, dans ce journal, depuis cette semaine, le taux de contamination est en régression ici en République centrafricaine.
Effectivement, Verdiane, ces derniers temps, le taux est stable. À ce jour, le pays compte 4614 malades, 59 décès, 1635 guéris. Dans le monde, le nombre de contaminations a presque atteint 18 millions et près de 680 000 morts et plus de 10 millions de guéris.
Hors de nos frontières, crise au Mali, 3 nouveaux juges nommés à la Cour constitutionnelle.
Le Conseil supérieur de la magistrature a désigné 3 nouveaux juges pour siéger à la Cour constitutionnelle et fait des propositions pour la nomination des 6 autres. Une étape de plus dans la tentative d'apaisement de la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs semaines.
Et puis 15 miliciens condamnés à 20 ans de prison en République démocratique du Congo.
Ils étaient accusés d'avoir participé en 2019 à un mouvement insurrectionnel dans la province de l'Ituri. 15 d'entre eux ont été condamnés à 20 ans de prison par la justice militaire congolaise. Un milicien a été acquitté faute de preuves. La page sport. La page sport de ce journal, une présentation de Bienvenue Bello. Bonjour.
Bonjour Reine, bonjour à tous.
Le calendrier des compétitions interclubs de la CAF a été actualisé en raison de la pandémie de Covid-19.
Effectivement, les demi-finales de la Coupe de la Confédération se joueront désormais le 22 septembre prochain. Pyramide d'Égypte recevra le Oroya de la Guinée au complexe Mohamed V de Casablanca au Maroc. L'autre match sera un duel 100% marocain. Il opposera le RCBR Cannes au USA au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. La finale se jouera le 27 septembre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, toujours au Maroc. Tous les matchs se joueront à huis clos.
Quelles sont les nouvelles du côté de la Ligue des Champions 2019-2020?
Toutes les rencontres devaient se jouer au Cameroun, mais les autorités camerounaises avaient décliné l'offre de cette organisation à cause du coronavirus. Les demi-finales se joueront donc à domicile et à l'extérieur. Les 4 clubs qualifiés en demi-finale sont 2 clubs égyptiens et 2 autres marocains. Les matchs allés seront disputés le 25 et 26 septembre au Maroc et les matchs retour le 2 et 3 octobre en Égypte. La finale se déroulera sur un terrain neutre au cas d'opposition entre un club égyptien et marocain. Un appel est donc lancé à l'attention des associations membres. Les intéressés doivent soumettre leur dossier de candidature comprenant le lieu du match et la garantie gouvernementale obligatoire au plus tard le 17 août prochain.
Toujours football à l'international, Pierre-Emerick Aubameyang, vainqueur de la Coupe d'Angleterre avec Arsenal.
C'était samedi dernier à Wembley à Londres que les Gunners ont battu les Blues de Chelsea 2-1. Arsenal remporte ce trophée grâce à un doublé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le club londonien est prêt à lui proposer un salaire proche de 280 000 € par semaine, soit 1 120 000 € s'il prolonge avec le club. Une sacrée somme qui pourrait faire réfléchir celui qui a offert la 14e Cup de son histoire à Arsenal. Une information que partage le Daily Mirror qui précise de son côté que Mikel Arteta, son entraîneur, pourra jouer un rôle majeur de la prolongation de l'attaquant. En effet, le coach espagnol a lancé un défi à son joueur gabonais, reste et devient une légende d'Arsenal. La balle est donc dans le camp d'Aubameyang désormais.
Ainsi prend fin ce journal en français préparé par l'ensemble de la rédaction. La version en sango, c'est tout de suite. Restez à l'écoute.